Alors, de quoi vais-je vous parler? Et j'ai repris un truc que j'ai fait la semaine dernière. Je vais vous parler de la vie spirituelle. Parce que souvent, on s'imagine à la vie spirituelle des tas de choses. Et que ça n'a rien à voir avec ces tas de choses. Et alors, ça va nous amener à parler des sacrements, de la beauté de Dieu. Dieu veut nous communiquer sa propre beauté, hein, c'est mieux que la chirurgie esthétique, de se faire retendre la peau des fesses, qui ne peut pas aller plus loin que dans le fond. Le costume en sapin. Et voilà, comment devons-nous y prendre pour laisser Dieu agir en nous? Parce que souvent, on veut faire des choses de façon intempestive. Suivant ce qui nous semble bon, et le résultat des courses, c'est que c'est pas ça, alors donc ça marche pas. Voilà. Ben, vous savez tout, tu peux ranger ta machine. Alors, on va faire d'abord appel à l'Esprit Saint, comme chaque fois. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui, par les illuminations du Saint-Esprit, instruit le cœur de tes fidèles, rends-nous toujours fidèles à ce même esprit, afin d'éprouver ce qui est juste et bon, et donne-nous toujours d'éprouver le réconfort de ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc, première question, qu'est-ce que la vie spirituelle? Alors, figurez-vous que nous sommes tous des êtres spirituels. Et pour quelle raison? Ah, et non. Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint le jour du baptême. Et c'est ça qui fait de nous des êtres spirituels. Et quand on dit plus ou moins, ça signifie que, ben, parce que nous percevons ou nous ne percevons pas des choses. Et c'est très différent. Mais il n'y a rien à faire, nous sommes des êtres spirituels puisque nous avons reçu l'Esprit Saint. Et c'est là où je veux vous conduire et non pas à évoquer des états d'âme qui n'ont rien à foutre avec ça, qui sont 99 fois sur 100 de la subjectivité. Et on peut être très spirituel, c'est-à-dire se laisser vraiment guider par l'Esprit Saint sans jamais ne rien éprouver. Vous voyez, on est dans une période d'église où il y a beaucoup de gens qui sortent des mouvances charismatiques, alors ben, toujours il faut éprouver quelque chose. Ben, la plupart des grands saints n'ont rien éprouvé. Et c'est pas parce qu'on éprouve que justement on est plus près de Dieu. Alors de temps en temps, il sait bien, hein, il voit bien qu'on va partir dans les décors, alors il y a une petite sucette par-ci par-là, quoi. Mais dans l'ensemble, nous n'éprouvons rien. Et c'est ça qui est important, c'est que nous avons l'esprit, et il faut laisser cet esprit agir en nous, et ça n'a rien à voir avec des états d'âme. Et combien de fois vous devez l'entendre à Saint-Gaudens, tous ces gens qui sont dans ces mouvements, le Seigneur m'a dit, ben, vous avez la chance. Vous avez de la chance, moi il ne m'a jamais rien dit. Enfin, il ne m'a jamais rien dit. Si, il m'a appelé. C'est vraiment un truc particulier, l'appel. Mais depuis. Et en même temps, c'est très attractif. Hein. Si je dis à des personnes, bon, ils disent, mais je n'éprouve rien dans la prière. Mais je vais arrêter de prier. Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, il y a quelque chose. Et ce quelque chose n'a rien à voir avec le sensible. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus attractif. Donc voyez-vous, hein, et c'est par exemple ce que Paul disait aux Galates, à la fin il s'énerve un peu, mais maintenant vous me gonflez, hein, si l'esprit est votre vie, que l'esprit vous fasse vivre. C'est Galates 5, 25. Hein. Donc vous avez reçu l'esprit, mais laissez-vous guider par l'esprit. Et donc c'est tout un comportement de vie qui n'a rien à voir, je vous dis, avec ces états d'âme. Et alors on l'a dans tous les couvents et dans toutes les paroisses. Il y a de ces personnes pieuses, ça n'a rien à voir avec la pieuserie. La sainteté n'a rien à voir avec la pieuserie. La pieuserie, ça peut relever souvent uniquement de la niaiserie. Et alors c'est se foutre la gueule du bon Dieu, parce que Dieu c'est Dieu, et le ramener uniquement à des gnagnateries, c'est le prendre pour un andouille, quoi. Pour finir, on s'enferme, si vous voulez, dans des choses qui, authentiquement, n'ont rien de spirituel. Pourquoi le Seigneur ne nous touche pas généralement par les sens? Parce que si vous voulez, nos sens, ça relève, eh bien, on a des yeux, on a des oreilles, on a un nez, on a une bouche. Sensiblement, on peut percevoir sur toute la surface du corps. Mais Dieu est infiniment plus que ce que peuvent percevoir nos sens. Alors, si on se limite à nos sens, à ce que l'on peut percevoir, ça ne peut pas aller bien loin. Et alors, le jour où il n'y a plus rien à percevoir, ben, on laisse tout tomber. Ou alors, il y a trois... chez nous, Jean de la Croix mettait en garde contre justement tous ces aspects qui relèvent du sensible. Il dit, je vous en ai parlé lors des pélés, quoi. Il y a trois possibilités. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient de notre imagination, soit ça vient du démon. Donc, si ça vient de notre imagination, ça ne tient pas la route. Si ça vient du démon, encore moins. Et si ça vient de Dieu, de toute façon, n'en tenez pas compte, parce que ce qu'il dit, ou ce qu'il fait percevoir, c'est efficace et que ça se produit. Ça ne veut pas dire se bloquer au passage de Dieu, mais ne vous attachez pas aux effets sensibles, parce que ça peut être que des illusions ou des tromperies. Et nous sommes confrontés tous les jours à des gens qui s'imaginent très pieux, très spirituels, parce qu'ils ont des révélations privées ou des trucs comme ça. On va t'en savoir. Ils n'écouteront jamais ce que dit l'Église. Mais ce qui leur a été révélé, ou il y a beaucoup de sites internet maintenant avec des révélations privées, méfiez-vous de tous ces bidules. Ça n'a rien de spirituel. Ça relève d'une sensiblerie qui peut aller parfois dans un bon sens avec, c'est sûr, on veut faire plaisir au bon Dieu, tout ça, mais pour finir, jamais disponible véritablement à l'œuvre que Dieu veut accomplir de façon personnelle en chacun de nous. On est uniquement sensible à ces soi-disant révélations, ou ce que nous on a perçu. Je vous dis, combien de fois on entend le Seigneur m'a dit. Vous avez beaucoup de chance, madame, moi il ne dit pas grand-chose. Alors qu'est-ce que le sens? J'avais relevé cette parole chez ce grand saint de l'Église orthodoxe, saint Séraphin de Sarov, au XIXe siècle. Je crois que c'est le XIXe. Il y a un monsieur qui vient le voir, monsieur Motovilov, puis il est mort de trouille en allant voir le saint. Et alors, c'est lui qui lui pose des questions. Il dit, oui, Motovilov, tu as une question à me poser. Et c'est la suivante. Quel est le sens de la vie chrétienne? Il lui dit, le sens de la vie chrétienne, il fait la question à la pose. C'est la vie dans l'esprit. Et à ce moment-là, il est devenu lumineux, Motovilov. L'autre, encore plus effrayé, alors il l'attrape, et Motovilov aussi est devenu lumineux. Alors, cette petite histoire nous montre que le sens même de la vie chrétienne, c'est de ne plus vivre suivant ce qu'il nous plaît, mais de se laisser mouvoir par ce que le Seigneur nous propose. Il ne va pas nous proposer en nous disant des choses sensationnelles, mais il va nous placer dans des conditions existentielles où il va modifier petit à petit nos façons de voir, de comprendre, d'aimer, mais il n'y aura jamais rien de sensationnel. Hein, vous voyez par exemple, comme dit le prophète Jérémie, il a mis sur mes chemins muraille et avant-mur. Je voulais faire ça, puis voilà. Il a bloqué toutes mes voies. Enfin, si toutes les voies où je voulais emprunter sont bloquées, il faut que j'en prenne une autre, qui est la sienne. Et on apprend à devenir petit à petit docile à ce que Dieu attend de nous, et non pas ce qui nous paraît bon. C'est pas du tout pareil. Alors comment, par exemple, si nous prenons Saint Paul, l'hymne aux Philippiens qui commence dans tous les livres de prière au verset 2-6, mais si vous prenez le Nouveau Testament, au verset 2-5, ça commence « Revêtez-vous des sentiments du Christ ». Et alors, quels sont ces sentiments du Christ? Il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est ça, les sentiments du Christ. Vous voyez, ces sentiments du Christ, ça n'a rien de sentimental. Je vous l'ai dit de nombreuses fois dans les pélés, ça n'a rien à voir, la vie spirituelle, avec un orgasme à l'état gazeux auquel on aurait eu accès parce que, suivant nos propres mérites. Et ça fait rentrer véritablement dans cette profondeur d'obéissance du Christ. Et même en supposant que l'on soit saint et immaculé, que l'on soit la Vierge Marie, l'esprit, ça fait souffrir. Et si vous vous souvenez, par exemple, du recouvrement de Jésus au temple, Marie est sans péché. Et Joseph, il ne doit pas en avoir baiser. Il ne nous a rien dit de Joseph. Il y en a certains qui optent pour le fait qu'il serait aussi immaculé, Joseph. Enfin bon, c'est un très saint homme. Mais tous les deux ont beaucoup à souffrir. Parce que le Père a voulu élargir leur cœur pour qu'ils accompagnent ce mystère incroyable de l'enfant Dieu, qui est Jésus. Ne savez-vous pas que je vais être aux affaires de mon Père? Et la Vierge lui dit, mais regarde mon enfant, combien nous avons souffert, ton Père et moi. Alors là aussi, ça nous place, pour faire comprendre ce que la vie dans l'esprit, on peut être, supposons que nous soyons extrêmement saints, c'est pas pour cela que ça ne nous fera pas souffrir. Dieu est sans limite. Et donc même avec une personne sainte, il veut toujours élargir dans cette personne sainte ses limites pour la rendre aussi comme lui illimitée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les fils du Père, les fils adoptifs. Mine de rien, on récite notre Père, il est Dieu, ce Dieu qui est au-dessus de tout, c'est notre Père. Donc ça nous montre combien nous sommes enfermés dans des conceptions basses et combien justement dans ces conceptions basses ce côté, cette sensiblerie nous bloque. Je vous l'ai dit, Dieu n'est pas sensible. Et les sentiments du Christ, eh bien, c'est aller jusqu'à la croix. Donc le sensible, je vous dis, préfère, je vous disais, peut-être l'orgasme à l'état gazeux, c'est beaucoup plus agréable. Mais là, vraiment, le Christ nous amène, nous fait connaître, et c'est là justement, par exemple, dans cette profondeur sacrificielle, et nous connaissons tous, même puisqu'il n'y a plus personne de jeune, là, dans le groupe, à travers les épreuves que nous rencontrons dans l'existence, on s'aperçoit que ces épreuves, pour finir, aussi dures soient-elles, sur le plan affectif, sur beaucoup de plans, que le Seigneur était là et qu'il se donne en abondance. Et on découvre d'autres dimensions. Vous voyez, ça a conduit à des souffrances. Ces souffrances nous ont permis d'accéder à des profondeurs beaucoup plus importantes et nous rentrons progressivement dans le mystère de Dieu. Donc, je résume la situation. Nous sommes tous spirituels parce que nous avons reçu l'Esprit. N'allons pas chercher plus loin. Ça n'a rien à voir avec des états d'âme où les personnes s'imaginent avoir des révélations privées. C'est, commencez à le saisir, une forme d'obéissance et d'abandon au Seigneur qui, à travers, bien souvent, dit même aussi saint soit-on, les épreuves de la vie, nous révèle quelque chose chaque fois de son mystère. Pourquoi? Parce que ces épreuves, dans leur souffrance, leur douleur qui est bien réelle, nous dégagent de façon de concevoir les choses. Donc vous êtes tous des spirituels. Et au moins autant que les personnes qui s'imaginent l'être. Un autre, je vais vous donner un exemple dans la vie de la Vierge Marie. Ah, ton père, puisque le père est mort, ta mère, tes frères, toute ta famille est là. Et Jésus se tourne vers la foule et dit, mais qui est mon père, qui est ma mère, mes frères, mes sœurs, ce serait le bonheur. Mm-hmm. Ils avaient un marteau. Bon. Et coup de conclure, mes vrais frères, mes vraies sœurs, mes vraies mères, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Et qui par excellence fait la volonté de Dieu, plus que Marie. Mais qui doit plus souffrir que Marie, là, puisqu'elle aime follement son fils. Et que dans le fond, vous voyez, cet épisode, c'est comme un renvoi de la Vierge Marie. Et dans ce renvoi de la Vierge Marie, eh bien, elle va se sentir, cette souffrance va la rendre totalement disponible pour l'œuvre du Fils, l'œuvre de la rédemption, de notre rédemption par le Fils. Et pour finir, à travers cette situation qui peut paraître cruelle, eh bien, le Fils qui prononce ses paroles sous l'impulsion de l'Esprit va bénéficier de la prière de sa mère qui est dans le retrait et de l'offrande cachée de sa mère qui est en retrait et qui n'est plus là dans sa vie apostolique. Qui ne réapparaîtra qu'au pied de la croix. Enfin, au jeudi saint pour la scène et au pied de la croix. Et donc, et c'est là au pied de la croix qu'il lui confie, dans le fond, cette maternité sans limite aussi, qui est très souffrante. Elle voit mourir son fils, et puis, voilà, la parole qui semble contradictoire, ben voilà ton fils, Saint Jean, quoi. Et pourtant, à travers là, va naître quelque chose qui va conduire à une maternité sans limite de Marie, qui n'est pas selon la chair, qui est selon l'esprit, elle devient la mère de l'Église. À travers son premier fils à engendrer, à cette plénitude d'exister en Dieu qui est Saint Jean. Alors voyez-vous, là, qui peut être plus spirituel que la Vierge Marie, quand elle se présente à Lourdes sous le nom de l'Immaculée Conception, c'est pas un nom de femme, ça, Immaculée Conception. Elle aurait pu dire à Bernadette, je suis de Conception Immaculée. Ça correspondrait à son état. Mais quelle est la conception immaculée? C'est Dieu lui-même. Il conçoit l'univers, il le tient de sa parole puissante, alors que il est seul, dans sa plénitude d'être. Donc, voilà, Marie est prise dans toute son existence, dans ce mystère divin, et chaque fois, malgré sa sainteté absolue, elle est amenée à des dépouillements de plus en plus grands, et un espace, c'est ça aussi, de l'autre côté, un espace de vie et de responsabilité de plus en plus vaste. Alors, ne nous fions pas aux états d'âme. Et c'est parfois à travers les épisodes les plus douloureux de notre existence que le Seigneur nous fait sortir de nous-mêmes, nous fait sortir de notre carapace qui était confortable, pour nous faire passer dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et souvenez-vous de la parole de Jésus, hein, « Je suis venu pour que l'homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. » Et non pas une vie qui est sécurisée par la sécurité sociale et les assurances. Il est venu nous donner sa vie. La vie divine. Vous avez compris, donc, vous étiez tous des spirituels. Parce que vous avez reçu pour la première fois cet Esprit Saint dans le baptême. Qui vous a conféré le baptême? Bon, le prêtre, vraisemblablement, qui était là. Vous étiez tout petit, toute petite sur les fonts baptismaux. Mais le prêtre, il est prêtre de l'Église. Et donc, ça rejoint le mystère de l'Église. C'est l'Église qui nous donne la vie spirituelle. Et ensuite, cet esprit nous est redonné sous des aspects différents, entre autres à travers, j'y viendrai, je crois que ce sera dimanche après-midi, oui, c'est ça, à travers les trois sacrements de l'initiation officielle, baptême, Eucharistie. Donc sans Jésus, qui est la tête de l'Église, et sans l'Église, qui est son épouse, ça c'est des métaphores hein, qui font comprendre, c'est des expressions qui font comprendre, nous n'aurions pas la vie spirituelle. Quand on rencontre des nouveaux baptisés adultes, il n'est pas rare que les gens, au bout d'un an, après, ils laissent tout tomber. Alors qu'ils ont reçu, comme nous-mêmes, nous avons reçu, l'Esprit même de Dieu. C'est pas rien, l'Esprit Saint. Nous recevons le même Esprit que Jésus a eu pour faire sa mission. Et Jésus... est engendré éternellement par le Père dans son esprit. Vous vous rendez compte, on reçoit la même chose. Seulement les effets que nous percevons en nous, eh bien ça paraît nul. Et ce que je vous disais de la parole de Saint Paul aux Galates, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse vivre. Il faut donc qu'en nous-mêmes, nous laissions l'espace à l'Esprit Saint, pour qu'il nous transforme. C'est notre liberté. Sinon, ça serait de la magie. Je reçois le baptême et immédiatement, je suis au plus haut degré de sainteté. Et c'est ça, parce qu'on s'imagine, c'est un coup de baguette magique. Non, vous savez, c'est comme dans en informatique, il y a un programme, si on le laisse comme ça dans sa boîte, le programme, il faut que le programme puisse se déployer en nous. Et ça, c'est l'effet de notre liberté. Et c'est extraordinaire, cette toute-puissance divine qui nous est donnée le jour du baptême, puisque c'est le premier sacrement de... Eh bien, possède en elle, cette toute-puissance, la capacité de nous diviniser. Et bon, ça nous place par exemple au péché originel. Qu'est-ce que dit le serpent des origines? Le serpent des origines dit, ben voilà... Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Et donc, il les pousse, en fond, dans ce péché, est un péché de possession, d'être Dieu sans Dieu, alors que Dieu ne fait que ça. Il nous a fait, prenez Genèse 1, 26, à son image, à sa ressemblance. Nous avons du divin en nous, nous l'avons perdu, et nous le retrouvons par le mystère de l'incarnation du Verbe, qui, par les sacrements, se redonne à nous et nous redonne pas moins que l'esprit qu'il a reçu pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Mais, voilà, il prend ce risque avec l'homme. Est-ce que l'homme acceptera que j'agisse en lui? Si nous menons notre vie uniquement suivant l'esprit du monde, en faisant ce que le monde nous propose et qui nous caresse suivant le sens du poil, eh bien, nous ne laissons aucun espace disponible pour que l'esprit du Christ et du Père agisse au plus profond de nous-mêmes et nous transforme, nous métamorphose dans le fond. Physiquement, on sera les mêmes, mais intérieurement, nous serons progressivement, parce que c'est progressif tout ça, métamorphosés. Nous ne serons plus les mêmes. Nous n'aurons plus la même façon de voir, la même façon de comprendre, la même façon d'aimer, d'envisager notre vie. Il nous redonne, dans le fond, la vie divine que nous avions perdue, mais il attend à notre porte, à la porte du cœur. Si on le laisse agir, ben nous serons comme entre parenthèses, comme la Vierge, quoi. Nous aurons certainement beaucoup de souffrances purificatrices, mais nous ne serons plus les mêmes, Si on continue uniquement suivant l'esprit du monde, bien forcément, il n'y aura strictement rien. Et certain que si Dieu s'était manifesté comme ça, tout le monde aurait été mort de trop. Et il prend la façon la plus discrète, la plus humble, en prenant notre condition, en se faisant homme. Et après, il continue toujours dans l'humilité, il vient frapper, il nous donne des sacrements avec sa toute-puissance. Les sacrements permettent d'avoir, si vous voulez, dans un sacrement, il y a à la fois une réalité matérielle qui permet d'être un support pour nos sens extérieurs. On voit, on verse de l'eau, normalement on devrait être complètement plongé dans l'eau au baptême, pour disparaître même sous l'eau. Ça devrait être comme ça. Mais maintenant, on a tellement peur que le gamin attrape un peu froid, il faut que l'eau soit tiède, pour finir, les symboles deviennent tellement rikiki, ça peut être comme ça. On disparaît, quoi. Ça signifie qu'on disparaît, qu'on meurt et qu'on renaît à cette vie nouvelle dont on est revêtu. Hein, revêtez-vous des sentiments du Christ, mais on est revêtu de son esprit, on est pris sous le manteau de l'esprit comme la Vierge Marie. C'est le symbole aussi du vêtement de baptême. Voilà. Mais après, c'est notre liberté au fur et à mesure que nous grandissons de le laisser agir et de laisser accomplir ce baptême qui nous purifie durant toute notre vie. Voilà pourquoi un baptême qui s'accomplit, ça fait souffrir. Et que nos souffrances, souvent dans la vie, si on y fait attention, sont souvent des souffrances qui nous dégagent de ce que nous sommes, à travers des circonstances qui sont justes ou injustes, ou effectivement terribles, mais qui petit à petit nous dégagent vers un autre espace qui lui est stable, et qui est cet espace dans lequel il nous attend, et qui, malgré tout, est un début de vie éternelle. Alors vous voyez là ce que je vous disais au départ, les gens qui sont attachés aux états d'âme, aux états sensibles, pour finir c'est se foutre de la gueule du bon Dieu, parce qu'il veut nous donner infiniment plus, il veut nous donner lui-même. Hein, c'est pas uniquement des états où on éprouve des choses ou on n'éprouve pas. Il y a des grands saints qui n'ont rien éprouvé. Mère Teresa, je crois que c'est les 30 dernières années de sa vie, elle n'a rien éprouvé. La petite Thérèse, c'est pareil, je crois ce que je veux croire. Enfin, voilà, et quand il donne des sucreries, c'est parce qu'on en a besoin, mais à faire mesure qu'on grandit et qu'il donne des nourritures d'adultes, et le niveau sensible finit par disparaître totalement. Voilà pourquoi, par exemple, au Carmel, Saint Jean de la Croix, dans sa doctrine spirituelle, parle d'une nuit des sens, où la personne fait des efforts pour se dégager uniquement de l'affectivité sensible, puis après c'est le Seigneur qui met la main à la patte, il ne reste plus rien. Donc voilà pourquoi il emploie ce terme de nuit des sens, mais vous voyez, il rectifie tout, il voit qu'on a de la bonne volonté, mais que de toute façon on ne peut pas arriver au bout, il faut que ce soit pris à la racine, donc il rectifie totalement notre affectivité. Et après, il peut éventuellement, si la personne est disponible, aller plus loin et réformer toute sa vie spirituelle. Et à la fin, qu'est-ce qui reste à la personne ?
Là, il n'y a pas de place.
Mais il a dégagé toute la place pour lui. Hein, c'est ce que, alors là, bon, pareil, Jean de la Croix appelle ça la nuit de l'esprit. Mais quand la personne n'a plus rien, alors là, vraiment, il n'y a plus aucun état d'âme, hein. Il n'y a rien. Et bien, le Seigneur peut se donner en totalité. Et comme dit toujours la lettre aux Galates, Paul, qui a connu cet état, pour dire ça, c'est « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Donc, voyez jusqu'où le Seigneur veut nous amener, c'est-à-dire, il veut nous amener jusqu'à lui, et refaire à ce moment-là, on comprend bien ce que veut dire l'expression, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que jusque-là, notre esprit était bloqué par tout cet être de chair qui est en nous et qui voyait uniquement son plaisir à travers le sensible, le charnel ou un pseudo-spirituel. Et vous savez, le Christ a été comme ça toute sa vie. Il a été certainement dans une pauvreté totale, intérieure aussi. C'est pas pour des cacahuètes qu'il passait des nuits à prier. Ce qu'il devait se sentir humainement, dans une incapacité totale, d'accomplir ce que le Père lui demandait. Donc il fallait que sa volonté propre soit complètement anéantie pour que ce soit le Père qui s'exprime à travers lui, et nous, que ce soit le Christ qui s'exprime à travers nous. Mais à ce moment-là, évidemment, on devient véritablement chrétien. Hein, si on ne se laisse pas mouvoir par l'esprit, on n'est pas chrétien. On est chrétien de nom. Mais on ne peut même pas en parler d'expérience parce qu'on ne le connaît pas. C'est pas un peu trop dur, c'est pas un peu trop raide. Mais vous voyez, il y a un enjeu merveilleux. Hein. L'enjeu est merveilleux, c'est la possession de Dieu. Et retrouve. Pardon ? Oui, on s'endurcit, puis on s'enferme dans des trucs qui sont tenables, parce que. Et puis dans des jugements, dans des façons de voir qui, pour finir, sont enfermantes. Et au lieu d'aller vers quelque chose qui nous dilate, on va vers un truc complètement raccourci. C'est un peu cette façon qu'on fabrique des grenouilles de bénitier. Ça n'a plus rien à voir avec
ça marche bien, ça.
Cet enthousiasme que Dieu veut nous donner. Mais voyez combien, à travers toute personne, sans exception, il est obligé de travailler en profondeur, parce qu'on a toujours tendance à s'enfermer dans nos limites, parce que ça nous sécurise. Et ce sont des fausses sécurités. Voilà pourquoi aussi, toujours au Carmel, il y a cette parole dans un poème de Jean de la Croix, j'étais avec appui et sans appui. Avec uniquement appui en Jésus-Christ et plus aucun appui en moi-même.
Et pas l'inverse.
Oui, parce que d'habitude, voilà. Là, pourquoi il demande aux apôtres de partir sans réserve, sans truc de rechange, etc. Quoi. C'est-à-dire appuyer sur son propre avoir. Voilà pourquoi il dit aussi, ne vous inquiétez pas, au moment où on passera en jugement, l'esprit vous dira ce que vous devez exprimer. Ce n'est pas des trucs à mémoriser, à retenir. Vous voyez, nous avons souvent une basse idée de ce que Dieu veut faire de nous. On est enfant de Dieu. Et il veut nous donner pas moins que ce qu'il donne à son Fils. Et il nous le donne. Et c'est nous qui n'en foutons rien. Parce que justement, souvent, on ne s'imagine pas que ça puisse être quelque chose d'aussi merveilleux. Donc cette vie spirituelle, hein, nous est donnée à nous d'avoir l'humilité, dans le fond, de regarder vers la beauté. Alors vous avez compris, dans le fond, que l'essentiel de notre vie chrétienne, l'activité intérieure, l'activité de l'âme, ce sera de laisser agir l'esprit en nous, et qui va se manifester en nous par 99 fois sur 100, par la réalité du quotidien. Parce qu'on nous demande de faire. Alors il y a des tas de choses qui sont sous-jacentes et qui ne nous plaisent pas du tout, comme il va falloir écouter. Vous avez compris qu'il nous parlerait sans bruit de mots. C'est-à-dire passer le temps, si vous voulez, dans notre existence, de le laisser agir en nous. Hein, si nous sommes plongés dans un hyperactivisme du matin au soir, pensez aux relations humaines, par exemple. Si je suis un hyperactif, je n'ai pas le temps de me poser, d'être avec une personne, de discuter avec elle, de me laisser instruire par elle, d'apprendre des choses, etc. Je fonce suivant mon idée. Alors, bon. Puisque Dieu a pris la condition humaine en Jésus, il faut aussi passer du temps avec lui. Et il nous parlera par le moyen de son esprit qui va s'exprimer en nous sans que nous entendions quoi que ce soit. Et là encore, je vous cite, vous comprenez, j'aime beaucoup Jean de la Croix, Le Père n'a dit qu'une seule parole, Jésus. Il l'a dit à notre cœur dans un silence éternel. Sans bruit de mots, sans phrase, sans suggestion, sans état d'âme. Et elle n'est audible que par les personnes qui sont silencieuses. Et vous comprenez ce qui est dessous, ça veut dire que on se tient en offrande et en disponibilité pour ce qu'il veut faire de nous. Et à ce moment-là, il nous le rend en abondance. Vous voyez, je suis à ta porte et je frappe. Hein, le Père et moi, nous viendrons chez lui à ce moment-là et nous y ferons notre demeure. Et à ce moment-là, nous ne pouvons plus voir les choses comme on les voyait avant. Ce qui fait que là aussi, le même saint Jean de la Croix, de façon poétique, dit « Je sortis dans la plaine et je ne connaissais plus rien. Et je quittais les troupeaux que jusque-là je suivais. Je ne vois plus les choses comme avant, avec ma façon de jauger, de comprendre, d'estimer, mais voilà, je me suis laissé envahir progressivement par Jésus, et quand je sors, je ne vois plus le, pour dire, le troupeau des idées, des façons de voir, des façons de comprendre, qu'on nous donne maintenant de façon toute prête avec les médias. On nous dit ce qu'il faut parler, etc. Non. Je suis devenu un être libre et je ne peux plus voir les choses comme avant. Et donc, vous voyez, nous recevons ce cadeau royal. Il faut avoir l'humilité de le laisser se déployer et de devenir passer sous cette écoute qui est sans bruit de mots. Et c'est cela véritablement le sens profond de l'obéissance. Et Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà, c'est toujours l'hymne aux Philippiens. Alors, il nous proposera peut-être des choses dures, des choses dépouillantes. Il y a aussi des périodes de notre vie où il nous fout la paix parce que il sait comment nous sommes faits. Il faut aussi qu'il nous puissions nous refaire une santé à tous les points de vue. Mais voyez, on débarque pour finir. Si nous avons cette docilité de nous laisser mener par l'esprit, on débarque véritablement dans un monde nouveau qui est son monde à lui. Façon de voir comme Jésus a vu quand il était, lorsque le Verbe a vu, lorsqu'il s'est incarné, en prenant la condition humaine. C'est normal. C'est normal puisqu'il a pris la condition humaine pour nous amener à lui. Alors c'est ça, hein, vous comprenez la vie dans l'esprit. Et je sais pas si j'insiste là-dessus, c'est parce que je vous dis, on rencontre partout les gens. On a l'impression qu'ils sont spirituels parce qu'ils vous étalent avec complaisance leurs états d'âme et leurs révélations particulières. Et en tout ce que je vous ai dit, il n'y a aucune révélation particulière, mais 9 fois sur 10, un grand silence. Mais je vous dis, quand on regarde ensuite en arrière pour voir notre vie, on s'aperçoit que tout a changé. Et ça nous incite justement à renouveler la confiance pour les choses à venir. Il nous amènera encore plus loin. Ce qui faisait dire, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Si on espère et on vit uniquement suivant nos impressions,
pas grand chose.
Mais si on espère en lui, si on a cette attitude d'accueil, eh bien, il va se donner en abondance. Alors ça vous fait percevoir aussi la vie de prière sous un autre angle. Et non pas la prière comme des choses à dire, les unes derrière les autres, mais comme quelque chose qui risque fort de devenir totalement informel, sans forme, mais qui est uniquement se tenir en présence d'eux, en éprouvant généralement rien.
Mais si on trouve ça.
Hein?
Si on trouve ça.
Oui.
Oui. Mais là, c'est qu'il est seul, sans parler, par des groupes de prière, ou autre, donne des impressions, il est seul.
Oui.
Ensemble, on est seul.
Mais là, vous bénéficiez un peu de cette prière du Carmel. hein, qui est... Bon, il peut y avoir des formes de prière qui sont très structurées. Si nous prenons par exemple nos offices, il y a des psaumes, il y a des hymnes, etc. C'est structuré, la prière. Puis après, il y a ce temps, ben, on est avec. Quand on est avec une personne avec qui on se sent bien, on n'a pas besoin de baratiner. On est avec. Et après, bon, ben, les changements dans notre existence, c'est pas à la seconde, mais je vous dis, si on regarde quelques années en arrière, on voit qu'on a changé. Et ça nous incite à faire confiance encore plus. Et à ce moment-là, on voit que ces formes de prières ultra simplifiées, mais qui pour finir sont des prières d'intimité. Hein, quand on est intime avec une personne, qu'elle est à côté, bien, on peut prier et être dans un état de prière à travers pratiquement toute activité. Alors, un piège que je trouve que nous avons, nous, au Carmel, on a demandé à Thérèse d'Avila de décrire justement ces prières où il n'y a rien. Alors elle dit, ben voilà, c'est pas qu'il n'y a absolument rien, mais il y a certains états de prière. Hein. Entre autres, il peut arriver que la personne se sente peut-être les prières au début difficiles, est obligée de s'appuyer sur des textes, puis après les textes, ça devient plus gonflant qu'autre chose. Parce que pour finir, on commence à avoir trouvé cette présence divine, et je vous dis, c'est difficilement exprimable, parce qu'il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Et en même temps, on ne peut plus s'en passer. C'est ce que je dis souvent, les gens viennent me voir, elles me disent, oh ben, j'ai des difficultés dans la vie de prière, etc. Mais je prends le risque, je leur dis, ben, arrêtez de prier. Et là, généralement, j'entends, je balise un peu, j'entends, mais oui, mais je ne peux pas m'empêcher. Alors, je dis, c'est qu'il y a quelque chose. Mais le quelque chose que vous trouvez n'a plus rien de sensible, il est dans un état beaucoup plus profond. Parce que le sensible, il veut se donner beaucoup plus que ça. Et alors, donc il y a des états, dit Thérèse d'Avila, où vraiment la personne peut même avoir, alors là, ça peut retourner vers le sensible, des états de forme de jouissance en Dieu. Mais, voilà, il ne faut pas chercher ces états. Si vous les cherchez, et que vous ne les avez pas, il agit de façon différente suivant la psychologie de chaque personne, vous risquez fort de vous tenir dans un état qui ne cherche plus tellement Dieu, mais une forme d'état narcissique qui cherche à savoir où il en est. Et on ne peut pas descendre du vélo pour se regarder pédaler. Donc il s'agit tout simplement de faire confiance. Alors après, il y a des choses qui viennent de notre faute. Et si nous ne passons pas de temps avec lui... Il nous a fait humains, donc il nous aborde, lui, tout en étant Dieu, suivant notre humanité, à travers Jésus. Et si on ne passe pas le temps avec lui, il ne risque pas beaucoup de se donner. Mais ne cherchons pas ces états. Et alors là, j'avais noté, puis je le développerai, parce que je vais vous faire demain matin, je vais vous parler de la beauté. Nous avons aussi une idée très matérielle de la beauté, donc surtout le monde contemporain, mais il y a du prêt à aimer. Hein, vous présente, on vous étale dans n'importe quel journal, c'est généralement des femmes, l'idéal de la beauté féminine. Mais la véritable beauté, c'est Dieu. Et il y a une beauté qui passe en Dieu bien au-delà de la beauté physique. Vous savez, Vendredi Saint, nous allons, comme chaque année, lire le chant du serviteur souffrant dans Isaïe. Isaïe 52, 13 à 53, 12. Comme ça, je m'en souviens, c'est l'inverse. Eh bien, il n'avait ni beauté ni éclat. On ne le reconnaissait plus. Hein. Il n'avait plus visage humain. C'était tellement... Il a reçu de coups, quoi, il est complètement défiguré. Et en même temps, comme dit saint Augustin, il est beau, même là. Parce que c'est cette beauté d'âme qui accepte d'être complètement détruit pour nous sauver. Et justement, l'Esprit Saint dont nous parlons dans la vie spirituelle nous donne, si nous l'accueillons, cette beauté de Dieu, qui passe au-delà de la beauté physique, qui est cette beauté intérieure, qui est inaltérable parce qu'elle est divine. Et dans le fond, l'homme a perdu sa beauté par le péché originel. Être donné une beauté physique transitoire de quelques années, mais c'est pas ça. La véritable beauté, c'est d'être image et ressemblance de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous redonne cette image et cette ressemblance de Dieu, si nous l'accueillons. Voilà, se laisser pénétrer par l'esprit, l'œil compris, sans rien éprouver, ça rapproche plus de Dieu et ça nous rend plus sa, la beauté divine, hein, sa beauté d'âme, sa beauté de cœur, que ne peuvent le faire bien les choses. Voilà, ce qui fait que la personne la plus laide, c'est le démon. Ben oui, parce que si vous prenez le nom de Lucifer, Lux Lucis, la lumière, et Foreign, porté. C'est porté, quoi. Donc il était porteur de la lumière de Dieu. Il se trouvait tellement beau, ce couillon, qu'il a cru que c'était lui. Donc il a voulu vivre sa propre beauté et sa propre puissance. Hein. La beauté de Dieu, c'est aussi sa puissance, de façon autonome. Et à ce moment-là, ipso facto, comme il est pur esprit, il n'a pas de corps, il est tombé dans la ténèbre. Il est porteur maintenant de la ténèbre, et il n'y a plus du tout de lumière en lui. Et il veut nous entraîner dans sa ténèbre. Mais si nous nous retournons vers Dieu, c'est un verset que je vous ai souvent cité, par exemple, Psaume 33, verset 6, qui regarde vers Dieu, vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et l'essentiel de notre vie pour que nous soyons des êtres spirituels, ce sera toujours d'avoir ce regard intérieur de l'âme tourné vers Dieu. Comme Jésus le disait à Sainte Catherine de Sienne, « Lorsque j'ai créé l'homme par ma providence, j'ai regardé en moi-même et j'ai été saisi d'amour pour la beauté de ma créature. J'ai voulu la créer à mon image et à ma ressemblance. » Et voyez, la ruse du serpent fait qu'il entraîne l'homme dans sa chute. Et l'homme a perdu cette beauté éternelle. Il ne peut la retrouver que s'il se laisse regarder par cette beauté éternelle, qui s'il laisse cette beauté, les rayons de cette beauté éternelle, dans le fond, ces rayons lumineux, c'est l'Esprit-Saint. Alors donc, si on s'expose, dans le fond, à cette lumière immatérielle de Dieu, ou à ces rayons de l'Esprit, eh bien la lumière est de nouveau reposée en nous, vous l'avez compris, déjà par le baptême, et par le fait ensuite que je laisse agir cette lumière en moi, sans me cramponner à ma ténèbre. Et nous trouvons de la beauté en toute chose, quand on regarde vers Dieu. Jean de la Croix, je vous cite, hein, c'est toujours très poétique. « Cette seule figure de son Fils a revêtu toutes les créatures de sa beauté. C'est-à-dire qu'il leur a communiqué l'être surnaturel lors de l'incarnation du Verbe. » Il leur a donné la surnature divine en s'incarnant. À tout de même. Il éleva l'homme à la beauté de Dieu et par l'homme aussi toutes les créatures, l'univers entier. Pourquoi ? Un autre problème. Hein. Une dernière image, et je vous laisse. Parfois, l'âme est comparée par les anciens à un miroir. Suivant la parole de Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qui je suis le miroir du Père. Donc il est la lumière née de la lumière, comme nous le disons dans le Je crois en Dieu. Mais si moi, je regarde vers le Christ, si mon âme est un miroir, donc elle devient miroir du Père que Jésus. Je suis le miroir du miroir. Oui, c'est tout un montage optique. Hein, et qu'avec...
Oui, mais quand on est miroir, on ne voit rien.
Hein?
Quand on est miroir soi-même, on ne voit rien.
Ah, oui, oui. Et c'est pire, on peut, comme disent les anciens, si notre miroir n'est pas orienté vers la lumière éternelle, que nous renvoie Jésus, eh bien, il est orienté vers le serpent des origines. Et quelle est l'image qui se forme dans mon âme? Ce n'est pas l'image de la lumière éternelle, mais c'est l'image du serpent des origines. Et je deviens de plus en plus pervers. Alors là, je vous cite un ancien, j'aime beaucoup les pères anciens parce qu'ils sont très, justement, véritablement spirituels, disent des choses très profondes. Entre autres, j'aime beaucoup les Cappadociens. Vous savez, en Turquie, il y avait la Cappadoce. On visite maintenant, mais ça a été un grand lieu d'émulation chrétienne. Ça fait du mal quand on y pense. Grégoire de Nice, N-Y-2-S-E. C'est pas N-I-C-E. N-Y-2-S-E. Bon, c'est pas lui qui a inventé la salade.
Mais approche à voir.
Donc, il dit, la nature humaine est dotée du libre arbitre, de ce vers quoi la porte la pente de son vouloir. En cela, elle se transforme. Elle est donc ainsi faite qu'il est en son pouvoir de se configurer à ce vers quoi elle se porte. Aussi est-ce à juste titre que le Verbe dit à l'âme qu'elle est devenue belle en se séparant de la communion avec le mal. Tu t'es rapproché de moi en t'approchant de la beauté inaccessible. toi aussi tu es devenu blême, réfléchissant comme en un miroir ma propre forme. La nature humaine ressemble vraiment à un miroir. Elle prend la forme de ce que reflètent ses vouloirs. Qu'en tournant le dos au péché, elle a été purifiée par le Verbe, elle reçoit en elle le disque du soleil et elle brille de la lumière même, de ce qui apparaît en elle. Alors le Verbe peut dire « Tu es devenue belle en t'approchant de ma lumière, ton approche a attiré sur toi la participation de ma beauté. » Je vais vous laisser là. Et demain, je vais vous parler de la beauté, demain matin. Ce que Dieu veut faire en nous, c'est une œuvre belle. Alors vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec cette sorte de méli-mélo ratatiné de spiritualité à l'eau grosse. C'est quelque chose de grandiose qu'il veut faire en nous, et ça va passer toujours par l'humilité, par le rien, par l'abandon, par... Et alors vous comprenez maintenant pourquoi Saint Séraphin de Sarov devient lumineux. C'est par pédagogie pour faire comprendre qu'il était envahi par cette lumière éternelle. Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup de saints qui ont eu ces phénomènes lumineux. Ça fait comprendre justement qu'ils se sont laissés dégager de leurs ténèbres, ils ont laissé le baptême accomplir, s'accomplir en eux, et ils ont acquis cette beauté, on pourrait dire lumineuse de Dieu. Dans le fond, ils sont transfigurés. Et nous sommes tous déjà transfigurés au moins au plus profond de nous-mêmes. Puisque nous avons la présence de Dieu, qui est la lumière éternelle. Il y a au moins au plus profond de nous, au plus profond de notre âme, une zone déjà qui est déjà transfigurée. Et alors éventuellement, je vous dis, c'est par souci pédagogique de Dieu pour faire comprendre à ce monsieur que voilà, Saint Séraphin s'est laissé totalement diviniser. La transfiguration, c'est notre avenir. Ce n'est pas un phénomène lumineux comme ça par hasard pour le Christ. Mais nous aussi, nous sommes appelés à cet état. Dans la vie éternelle, nous serons tous transfigurés. Voilà.